Et pour ceux qui vont rester ici, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 131. Psaume 131. Alors, la semaine dernière, Nicolas a terminé sa prédication sur le psaume 130. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer sur le psaume 131. Et on va voir que donc ce psaume va terminer par la même exhortation, même encouragement que la fin du psaume 130, c'est-à-dire une exhortation adressée au peuple d'Israël de mettre sa confiance en l'Éternel, dans le Dieu d'Israël, le Dieu éternel. Mais donc, puisque nous avons, nous dit la Bible, été greffés au sein de ce peuple, alors donc nous aussi, nous allons pouvoir être encouragés, recevoir une exhortation à travers ce psaume. Donc, psaume 131, un psaume de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. J'ai lu il y a quelques instants dans la présentation d'Amiel le passage dans Marc chapitre 10 où on apporte les enfants à Jésus, où donc les disciples ne veulent pas que Jésus soit embêté par les enfants et donc cherchent à les empêcher de venir. Et Jésus qui réagit en disant « Mais non, laissez donc les enfants venir à moi ». Et il dit dans le verset 15, « Car je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Le Seigneur donc nous invite à avoir le cœur d'un enfant. Alors le mot « enfantin », d'être comme un enfant, ça peut être perçu comme quelque chose de positif, comme aussi quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Alors, pour ceux à qui manquent les références régulières de John au dictionnaire, je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse cette semaine quel était le sens précis du mot « enfantin ». Et justement, le dictionnaire aussi confirme cette double notion, donc aspect positif, aspect négatif, d'être enfantin, de ressembler à un enfant. Donc, premier sens, le mot enfantin veut dire celui qui tient de l'enfance par sa spontanéité, sa simplicité et sa fraîcheur. Et c'est plutôt dans ce sens-là que Jésus nous dit, pour entrer, pour recevoir le royaume de Dieu, vous devez vous rendre comme un petit enfant, avec cette spontanéité, cette simplicité, cette fraîcheur qui est propre aux enfants. Mais après, le dictionnaire dit que ça peut également parler de ce qui ne convient qu'à un enfant, ce qui est du niveau intellectuel d'un enfant, ce qui est puéril. Il continue en disant, bon, enfantin appliqué à un adulte n'est pas nécessairement péjoratif. On peut dire en bonne part d'une personne dans la force de l'âge, elle a un bon sourire, presque enfantin. En revanche, infantile, dans un contexte analogue, est toujours pris en mauvaise part. Une personne infantile est immature. Elle agit non pas comme un adulte devrait le faire, mais comme un enfant. de manière impulsive et irréfléchie. Malheureusement, sans doute on connaît tous des chrétiens qui ressemblent plus à cette dernière définition plutôt qu'à la première. Ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus a dit « vous devez devenir comme un enfant ». Il ne voulait pas qu'on soit immature ou qu'on agit de manière impulsive, irréfléchie. Il y a, comme disait le dictionnaire, un comportement qui convient à un enfant, à la limite, mais qui ne convient pas du tout à un adulte. Quand les gens voient au supermarché devant le rayon de bonbons un petit enfant qui hurle ou qui roule par terre parce qu'il veut absolument avoir tel bonbon, bon, c'est pas idéal, on se plaint les parents, mais ça reste un enfant. Par contre, si vous voyez un adulte dans le rayon des bonbons qui tape par terre, qui roule parce que sa femme ne lui permet pas de prendre tel paquet de bonbons, on se dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. On a d'autres attentes de la part d'un adulte que d'un enfant. Jésus dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez devenir comme un enfant, mais non pas dans le sens de rouler par terre et de taper du poing chaque fois qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut tout de suite, mais dans le sens d'avoir cette spontanéité, cette simplicité, cette fraîcheur dans le cœur qui est propre aux enfants. La Bible nous montre que malheureusement, il y a toujours eu et il y aura toujours certains chrétiens qui vont prendre le mauvais côté de cette instruction du Seigneur de ressembler à un petit enfant. Au lieu d'avoir juste le côté spontané, simple, ils vivent leur vie justement en tapant du poing et en se roulant par terre parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent tout de suite. Ou ils veulent rester dans la petite enfance où ils sont presque comme un bébé oiseau avec le grand qui vient déverser directement dans le bec tout ce qu'ils veulent. En Hébreux chapitre 5, verset 11, l'auteur devait dire, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le Seigneur nous appelle à garder cette spontanéité, cette fraîcheur, cette simplicité d'un enfant dans notre cœur, mais en même temps de devenir des êtres adultes, avec un comportement et une réflexion adulte, qui ne reste pas au niveau d'un enfant en précoce dans la vie chrétienne, mais d'avancer dans la vie, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître sa parole, d'apprendre à appliquer ses principes dans notre vie. Lorsqu'un parent élève son enfant, il espère que, en l'aidant à savoir comment traverser une route, en l'aidant à savoir les dangers de l'eau et de l'électricité, il va apprendre et appliquer ses leçons. Il espère que s'il lui explique ça suffisamment jeune, après, il ne va pas courir sur la route derrière une balle à 40 ans. Il espère qu'à 20 ans, il ne va pas mettre ses doigts dans la prise électrique parce qu'il aura appris les leçons. il espère qu'il aura une réflexion mûre et ne sera pas toujours en train de vouloir simplement jouer tout le temps comme un petit enfant. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul aussi était obligé de reprendre les chrétiens là-dessus. En disant, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Si on revient à nouveau au dictionnaire, le dictionnaire parlait d'un comportement qui ne convient qu'à un enfant. Paul dit, par votre comportement, vous êtes en train de vous comporter comme des petits-enfants. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Chacun donc d'examiner sa vie, d'examiner ses motivations, d'examiner sa manière de réfléchir. Vous dire avec Paul un peu plus loin dans Corinthiens, il faut que je mette derrière moi maintenant les choses qui appartiennent à l'enfance et que je deviens un chrétien adulte, même si je garde la simplicité de cœur d'un enfant. Parce que donc ce n'est pas à cette idée d'immaturité que le Seigneur nous appelle en nous disant de rester, d'avoir un cœur d'enfant, mais simplement dans cette spontanéité, simplicité, fraîcheur devant lui. Alors je sais que 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 3 nous donne le conseil, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mais tout à l'heure, on va voir que cela n'est pas du tout en contradiction avec Paul qui disait « Vous devez maintenant avancer et ne plus être au niveau du lait, mais de la nourriture solide. » Donc, un enfant traverse certaines étapes dans la vie. Et le psalmiste fait référence à une étape précise de la vie. Donc, finalement, on se rend compte que ni Jésus, ni le psalmiste, ni Pierre n'appellent les enfants de Dieu à rester de gros bébés dans la foi, mais à grandir. Même le psalmiste, lorsqu'il parle de rester tel un enfant, ne reste pas un gros bébé, mais il dit... J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. Il n'est pas encore au niveau du bébé, il est comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif normalement de tout parent, c'est de donner à leurs enfants les capacités qu'il leur faut pour devenir des adultes mûrs. Pour devenir des adultes capables d'avoir une vie indépendante, capables de contribuer à la société, capables surtout de devenir de bons parents à leur tour, capables eux aussi de donner une bonne éducation à leurs enfants. Pour revenir donc à 1 Pierre chapitre 2, alors le lait n'est pas toujours mauvais. Nous, quand on part en vacances en Normandie, un de mes petits plaisirs, c'est d'aller au marché acheter une bouteille de lait cru et de pouvoir donc boire ce lait cru si crémeux. Et je vous rassure, je ne le fais pas à travers un bidon, je sais boire d'un verre. Tout dépend de ce qu'on fait et comment. Il y a une grande différence entre boire du lait dans un verre et téter un biberon, voire même le sein de sa mère. Le psalmiste dit, « Moi j'ai l'âme d'un enfant sevré. » auprès de sa mère. Un enfant sevré, finalement, n'a plus besoin de venir chez sa mère dans le but de boire son lait. Un enfant sevré est passé justement au besoin tout le temps de se nourrir qu'avec du lait, au fait de manger de la nourriture solide. Alors, ça va dépendre à chaque enfant à un moment différent, mais c'est le but d'arriver à cette étape où on n'est plus toujours en train de boire le lait maternel, mais où on est capable de manger de la nourriture solide. Alors, puisque aujourd'hui il est avec les jeunes AESH, je vous profite pour embarrasser Marc en toute impunité. On a su tout de suite quand lui il était prêt à passer cette étape, parce qu'un jour on était assis à table, Marc était sur les genoux de Véronique, nous on était en train de manger un plat de pâtes, et tout d'un coup il y avait cette petite main qui est partie vers l'assiette, qui a pris une poignée de pâtes et qui a commencé à manger les pâtes au pesto. Donc, Véro, en tant que maman, a été affolée en disant « Est-ce qu'il n'est pas trop jeune à manger des pâtes au pesto ?» Est-ce que... Mais finalement, quand on a parlé au médecin, elle a dit « Bah non. » Lui, il a décidé qu'il est en âge maintenant de passer à d'autres choses, de passer à la nourriture solide. Et en train de devenir un enfant sevré. Un enfant qui n'est plus là juste à prendre le lait de sa mère, mais qui démarre donc une autre étape dans la vie, une autre étape aussi dans la relation. Et c'est justement cette autre étape dans la relation que le psalmiste souligne dans ce verset lorsqu'il dit « J'ai l'âme comme un enfant sevré ». Alors la clé de ce psaume, tout comme Nicolas nous disait la semaine dernière pour le psaume 130, la clé se trouve à nouveau à la fin du psaume, dans cette exhortation au peuple d'Israël. C'est là où on se rend compte à nouveau que le psalmiste n'est pas en train de donner des leçons sur l'éducation des enfants ou sur la puériculture. Il n'est pas en train de parler purement de son expérience personnelle, mais son objectif, c'est de dire au peuple de Dieu, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et s'il parle d'avoir l'âme comme un enfant sevré, c'est dans le but de souligner l'importance et l'effet de mettre son espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Pourquoi parler d'un enfant sevré? Jusqu'au sevrage, l'enfant cherche surtout sa mère dans le but de se nourrir. Ceux qui sont déjà parents, vous vous souvenez de ces moments bénis où à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin, vous êtes réveillés par les cris d'un bébé qui veut sa mère, mais qui veut surtout manger. Qui donc crie pour avoir ce lait dont il a besoin. Et vous savez que les bébés ont beaucoup de qualités, mais la patience n'est pas la première des qualités d'un bébé. Un enfant, un bébé qui veut boire le lait, il va réussir à te réveiller, même si c'est en plein milieu de la nuit. Et si tu ne réponds pas dans les 30 secondes, progressivement, le volume va augmenter jusqu'à ce que c'est tout le quartier qui sait qu'il a faim. Et vous allez être surpris par la quantité de bruit qu'un tout petit est capable de faire. Mais l'objectif principal de sa relation avec sa maman, c'est la nourriture. Il veut manger et il veut manger tout de suite. Un enfant sevré, il ne dit pas dès le jour où il commence à manger la nourriture solide, « Tiens maman, merci pour le lait, maintenant c'est fini, tu peux faire autre chose. » Un enfant sevré aime toujours garder cette relation avec sa mère. Continue à aller vers sa mère. mais non plus dans le but simplement de manger, d'être nourri, de recevoir ce lait dont il a besoin pour la vie. Simplement, il a progressé vers une autre étape de cette relation où il découvre tout simplement du bien-être auprès de sa mère. Il est content d'être sur les genoux de sa mère. Il trouve du réconfort sur les genoux de sa maman. Un enfant sevré donc, sauf s'il y a un dysfonctionnement grave dans la relation, aime la présence de sa mère, même sans en avoir besoin pour manger. Simplement, il trouve effectivement du calme, de la tranquillité dans la présence de sa maman. Alors, si vous pouvez encore vous projeter suffisamment longtemps en arrière, vous vous rappelez quand vous étiez jeune enfant, bah, tous les malheurs du monde pouvaient vous tomber dessus. Il suffisait d'aller s'asseoir sur les genoux de maman, de faire un câlin avec sa maman, et tout d'un coup, comme par magie, tous ces malheurs disparaissaient. On était bien, on trouvait cette calme, on trouvait cette tranquillité, peu importe tout ce qui se passait autour, on était bien dans cette relation, dans cet endroit, dans cette présence. Et c'est de cela que parle le psalmiste, dans ce but de dire au peuple de Dieu, mets ton espoir en l'Éternel. Il dit, parce que ce que j'ai découvert, c'est que je peux calmer mon âme. Parce que finalement, ça ne sort pas très bien en français, mais dans l'hébreu, il y a cette notion du psalmiste qui dit, j'ai calmé mon âme, j'ai tranquillisé mon âme. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Une des choses qu'on remarque chez les jeunes enfants, 2, 3, 4, 5 ans, c'est qu'ils vivent tout intensément, n'est-ce pas? Lorsqu'ils tombent et ils se mettent à pleurer, il n'y a jamais eu catastrophe pareille dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Ils crient et pleurent de toute leur force, de tout ce qui est en eux, et puis il s'assoit sur les genoux de la maman et, comme par magie, tout est parti. Ils se sont calmés, ils se sont tranquillisés dans la présence de leur mère. Et c'est de cela que parle le psalmiste. Il dit, j'ai l'âme calme et tranquille, j'ai calmé et tranquillisé mon âme comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Donc, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Il a découvert que dans la présence du Seigneur, il est plus que comblé. Il est comme dans cette bulle dans laquelle on se trouve en tant qu'enfant, lorsqu'on a été calmé, tranquillisé auprès de sa mère. Tous les malheurs disparaissent, perdent de leur importance, tellement cette présence nous fait du bien. Et finalement, c'est ça, cette attitude de cœur d'un enfant dont parle Jésus en Marc 10, verset 15. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. L'objectif principal, nous dit le psalmiste, c'est la présence du Seigneur. C'est d'être auprès de lui comme un petit enfant qui désire être dans la présence de sa mère. Il dit même, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur pour gérer les choses de la vie. Il y a des circonstances qui nous dépassent dans la vie. Il y a des choses qui sont au-delà de notre capacité. Alors, on vit, je sais, dans une société où chacun veut se croire et se présenter comme étant le plus fort, comme étant le plus capable. Une société où on doit se vendre et où on doit convaincre qu'on est à la hauteur. Le psalmiste dit, je reconnais que je ne suis pas à la hauteur. Et c'est ça, dit-il, le secret de ma vie. C'est de là que j'ai appris à être calme et tranquille. Tout comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai appris à être content dans la situation dans laquelle je me trouve, car je puis tout, non pas parce que je suis capable d'y faire face, mais je puis tout par celui qui me fortifie, par cette présence que cherche un enfant sevré auprès de sa mère, qui n'est pas juste en train de venir pour avoir ce qu'il veut, ce dont il a besoin dans l'immédiat, mais qui est là pour, à cause de la relation, qui est là pour la présence bienfaisante de sa mère. Nous sommes invités à aller auprès du Seigneur, non pas juste parce qu'on veut telle ou telle chose et qu'on vient avec notre liste des courses dans la prière en disant « Seigneur, voici ce dont j'ai besoin, tu t'en occupes, merci !» Mais où on le cherche à cause de qui il est. Où on le cherche parce qu'il est notre Père Céleste et on veut être avec lui. Vous savez, quelle est la nature de l'éternité? Bon, certes, il y aura des rues pavées d'or et des choses merveilleuses. Il y aura ce grand banquet des noces de l'agneau. Mais si vous allez que pour ça, vous allez être déçu. Parce que ce qui est au cœur de la vie éternelle, ce pourquoi nous avons été sauvés, c'est lui-même. C'est la présence du Seigneur. C'est de l'admirer, de le voir, de le regarder, d'être avec lui. Pour ça que la définition de la nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, c'est il n'y a plus de temple, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière, parce qu'on n'en a pas besoin, parce que tout est fixé sur sa présence, c'est parce que lui, il est là. C'est parce que lui, il est là que nous sommes dans ce bonheur éternel. Et Dieu nous fait la grâce, déjà dans cette vie, de pouvoir connaître cette grâce et ce bonheur. D'avoir l'âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. C'est le bonheur que nous trouvons auprès du Seigneur. Le psalmiste dit, Israël, peuple de Dieu, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais, car vous allez découvrir comme moi qu'en reconnaissant votre incapacité, mais sa grandeur, vous allez pouvoir tranquilliser, apporter du calme à votre âme, découvrir le bien-être, le bonheur auprès de lui, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Que nous puissions donc prendre aujourd'hui encore le conseil du psalmiste à cœur. Mettons, concentrons-nous avant tout sur la personne de notre Seigneur. Entrons en relation avec lui, surtout pour lui. Ne soyons pas comme ces petits-enfants, ces gros bébés chrétiens, où l'apôtre fait des reproches, qui ne viennent que pour avoir les besoins immédiats exaucés par notre Père Céleste, mais qui sont passés dans cette autre étape de la relation, où nous trouvons notre bonheur à être avec lui, à le connaître, à l'admirer, que lui puisse être tout notre bonheur et que nous puissions donc trouver calme et tranquillité auprès de lui comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Ayons un cœur d'enfant, ayons l'âme comme un enfant sevré. Mettons notre confiance, notre espoir en l'Éternel, dès maintenant Et à la fin.